Bon allez, on lance, c'est parti. Le public est là, je le vois. Je vois le public est attentif. Bonjour.
Bonjour public.
Initialement, on voulait faire un atelier, on voulait faire une plénière sur le thème de l'écosystème de la fraise pas pareil, mais comme ces questions ont été massivement et de façon très intéressante abordées hier, on s'est dit qu'au final, c'était plus efficace et plus pertinent de mettre l'atelier maintenant. Du coup, le thème qu'on va aborder maintenant, c'est le rapport entre les médias mainstream, les médias alternatifs et l'activisme. Donc voilà, savoir quelles sont les dépendances, les interdépendances, les rapports de les rapports d'utilité, les rapports d'utilisation qu'on peut avoir entre ces différents univers qui sont très liés. Parce que dans les médias alternatifs, on est très nombreux, voire une majorité, à être activistes à côté. Donc voilà, par exemple, à Moué, on est anarchiste et on ne s'en cache pas. Et une partie de notre activité est orientée vers l'activité anarchiste. De nombreux médias à côté sont des activistes écolos, activistes anarchistes. Et l'idée, c'est de se poser la question de savoir, en tant qu'activiste et en tant que journaliste, comment fait-on pour médiatiser nos luttes et comment fait-on pour porter cette double casquette d'activiste et de journaliste, notamment dans le rapport à la presse mainstream, parce que la presse mainstream, pour une bonne partie, elle nous fait vomir, mais c'est vrai que des fois, on est quand même bien content qu'elle parle de nous. Donc l'idée, c'est de savoir comment cette presse-là, comment nous, en tant que journalistes alternatifs, même pour parler de nous, c'est parce que même nos journaux, on est bien content que nos informations soient reprises dans le mainstream. Comment on fait pour gérer ça, en fait, et quels sont les rapports, les interdépendances qui peuvent exister entre les milieux activistes, les milieux mainstream et les milieux de la presse mainstream, donc c'est-à-dire la presse gros tirage, c'est cette presse qu'on a tendance à critiquer de façon assez ouverte, et nos petits journaux qui sont petits, mais qui du coup, justement parce qu'ils sont pas, qu'ont souvent une audience locale, nationale, mais localisée à certains milieux, n'ont pas forcément la force de frappe que peuvent avoir des médias qui sont lus par plusieurs milliers de personnes, comme ça peut être le cas des JT ou des journaux à gros tirage. Donc on va discuter de ces thématiques et on va du coup, on a ici le point, on a ici la mule, on a ici la brique aussi. Donc voilà, qui sont trois journaux qu'on pourrait qualifier de médias de lutte quand même, parce que vous êtes beaucoup focalisé sur la façon de vous couvrez pas mal de luttes. On s'était croisé à Fournes pour un truc contre Amazon, c'était bien sympathique. Il pleuvait, enfin il faisait pas beau, mais bon, c'était cool quand même. Et c'est du coup Cédric Hirou qui du coup avec Emmaüs Roya et avant du coup avec DTC et encore avant du coup a fait le choix du coup de se servir des médias mainstream pour tu expliqueras du coup le pourquoi du comment du machin, mais il a du coup a quand même fait un choix clair de se servir des médias mainstream pour médiatiser sa lutte au risque de la personnalisation, parce que le problème quand on a un truc à médiatiser, notamment dans des journaux à grand tirage, c'est qu'est-ce qu'eux ils vont en sortir, quoi. On a tous eu cette expérience d'organiser un événement, de dire à France 3 de passer parce qu'on se dit bref, ça pourra faire un petit peu d'audience, et juste de pas du tout reconnaître l'événement qu'on a vécu dans la version France 3. Généralement, il y a vraiment un univers, un abîme dans ce que certains médias et certains journalistes peuvent retranscrire. Des fois, on ne reconnaît pas du tout ce qu'on fait, on ne connaît pas du tout ce qu'on est, et c'est parfois perturbant. Donc on va parler de tout ça, et je serai animateur, je suis très fatigué, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis un peu fatigué. Donc soyez bienveillants avec moi. Ouais, merci. Et pour commencer à parler de ça, on va donner la parole à la mule, tiens. La mule, qu'est-ce que ça vous évoque, ces sujets, allez, ouvrez votre cœur, médias de lutte, activisme, rapport au mainstream, comment vous gérez ça, vous?
Comment on gère ça? Je sais pas, nous on fait un peu notre truc et on voit qu'il y a les mainstream à côté de nous localement qui font aussi leur truc. Je pense que nous, ce qu'on fait en tant que médias, on fait exister une info dans la réalité à l'aide de moyens techniques de diffusion, en gros, quoi. Et les mainstream, en fait, disposent de ressources et de finances qui sont incomparables avec les nôtres et qui permettent à ces moyens de diffusion de transmettre une information. Donc après, je sais pas exactement quelle question est posée, tu vois, mais dans notre rapport avec ça, on peut avoir un rapport critique, on peut aussi comprendre exactement ce que ça crée dans la réalité et comment on peut s'en servir en tant que militant, en tant qu'activiste. Nous-mêmes, en tant que médias, on doit jongler avec des données qui font partie de ça, en fait. On a des boulots qui sont assez similaires avec ce que vivent des journalistes de médias mainstream, dans le sens où on utilise les mêmes moyens qui permettent de produire une information. Mais en fait, on a des fonctionnements qui sont radicalement différents et des façons de penser, de se structurer, d'agir qui sont complètement différentes. Et voilà, que dire de plus ? Il y a plein de trucs à dire, je pense, sur cette question-là, mais il faudra savoir vers où on se dirige.
Bah, là où je pense qu'on va se diriger, c'est savoir comment nous, en fait, on peut avec cette double casquette d'activiste et de journaliste, parce que généralement, c'est ce qu'on est, comment on peut arriver à médiatiser efficacement nos combats, qui sont ceux d'une contre-société viable, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est techniquement beaucoup... Si on est activiste, c'est qu'on veut, on veut ruiner le monde tel qu'il est parce qu'il nous paraît puer du cul et qu'on veut le remplacer par autre chose. Donc ça dépend des personnes. Enfin, le modèle de proposition d'alternative est différent. Et comment on gère ces doubles casquettes et comment on peut être efficace en tant que média de lutte pour arriver à servir efficacement les causes qu'on sert, en fait, enfin, les causes qu'on sert sans faire la propagande. Sans faire de la propagande débile, sans faire du tract, sans faire du... comment arriver à être activiste et honnête en tant que journaliste et comment arriver à efficacement servir les combats qu'on défend. Ce sera un peu l'idée, quoi. Sachant que nos moyens médiatiques d'action sont quand même beaucoup plus limités que ceux du mainstream. Parce qu'on touche généralement... ceux qui nous lisent, c'est des gens qui sont souvent dans notre milieu déjà de base. Donc, et comment aussi atteindre les non-convaincus ? Ce serait la question, je pense, qu'on pourrait aborder.
Bonjour. Alors, du coup, il y a le point qui est disponible dans le kiosque là-bas. Voilà, je vous le montre. C'est du papier, c'est aussi sur Internet, sur lepoint.net. Sur la question du rapport au journalisme et au militantisme, en tout cas, le point à sa création, au début, on rejetait l'étiquette de journaliste sur le TEP. De toute façon, le journaliste, c'est de la merde. Suffit de voir BFM, etc. Il y avait un peu le rejet de cette étiquette-là. Et au fur et à mesure, en tout cas pour ma part, je me suis dit que c'était en fait une connerie, puisque quand on documente la réalité, quand on apporte des documents dans le débat public, des témoignages, et qu'on sort des journaux, on peut sortir tous les mots qu'on veut, mais en fait ça s'appelle du journalisme. Et justement, sur les médias mainstream ou pareil, les politiques, etc., il y a une tendance à restreindre le champ du journalisme, comme si parce qu'on était militant, on ne pouvait pas être journaliste, ce qui est une connerie sans nom. Le journalisme, c'est juste le fait de documenter, d'apporter des documents et de retranscrire des paroles, d'apporter des témoignages et, si possible, de faire des enquêtes, donc de révéler des informations. À partir du moment où on fait ça, c'est du journalisme. Et à la limite, le caractère militant, il est quasiment... pour moi, il est mineur par rapport à la, il est mineur par rapport à ça. Voilà. Bon, ça c'est évidemment, ça n'engage que moi. C'est pas avant, on n'a pas fait une réunion au point pour savoir ce qu'on pense ou quoi, qu'on soit clair. Et je te donne la parole. Et deuxième truc, et c'est pas parce qu'on a une bonne opinion politique qu'on fait du bon journalisme. Il y a aussi parfois cette prétention que parce que on est anticapitaliste, à ce moment-là, ce qu'on va dire, ça va être super intéressant forcément, quoi. Si t'as pas travaillé ton sujet, si t'as mal bossé ce jour-là, t'as beau mettre à la fin un petit éditorial pour dire acab, 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 si ce que t'as écrit avant c'est pourri, avoir une bonne opinion, ça fait pas une bonne information, quoi. Voilà.
Donc, je suis aussi au point, mais depuis peu de temps, et je suis assez d'accord avec ce que dit Jules, mais du coup, je reprends ce que tu as dit. C'est pas pour moi une double casquette. C'est vraiment quelque chose qui a à s'articuler ou à se désarticuler. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'en sort pas toujours. Parfois, ça verse trop d'un côté, ça verse trop de l'autre. Et c'est là, peut-être, qu'arrive le travail un peu plus d'écriture ou de journalisme. C'est-à-dire qu'il faut arriver à articuler les choses et à faire en sorte que ça soit élaboré, ça s'élabore. Et pour le coup, dans l'équipe du Point, on n'est pas toujours d'accord du point de vue des opinions politiques sur un événement, du point de vue de l'analyse. Et peut-être que ce qui compte, c'est de couvrir ce que les médias mainstream ne couvrent pas. Par exemple, récemment, on a beaucoup couvert dossier international, alors que ça se passe pas en France, mais ça s'est passé aussi à Montpellier, à savoir la Palestine et la Colombie, des choses qui ne sont pas couvertes, et effectivement avec un travail d'élaboration. Voilà.
Peut-être pour compléter un petit peu ce que dit Brigitte, je pense que ce côté un peu militant, forcément ça va nous apporter un autre regard, et donc parfois, pas toujours, il faut toujours... voir les deux côtés aussi, mais on a cette connaissance, en fait, tout simplement, que les médias mainstream ne vont pas avoir. Et donc, forcément, ça va se ressentir sur le contenu, et je pense que c'est là où cette double casquette, elle a un vrai rôle à jouer, en fait. C'est qu'on a cette connaissance. Je voudrais parler de recul, c'est un peu bizarre de parler de recul alors qu'on est dedans. Mais il y a ce côté-là où on peut peut-être avoir plus de bagages pour avoir une meilleure analyse et un regard différent, en tout cas. Meilleur, je ne sais pas, mais différent. On retombe toujours sur la question de la diversité. Et ça peut être que très bien pour le journalisme.
Merci. Ouais, tu voulais dire un truc, du coup ? Ah, allez, c'est parti.
En fait, notre façon de faire du journalisme, quelque part, c'est un militantisme. Pour moi, on est... On n'a pas besoin de mettre des jolies formes ou d'écrire d'une manière qui nous correspond politiquement. Le simple choix du sujet qu'on fait marque notre positionnement politique, je pense. Et pour moi, ce qui fait la différence entre journalisme et militantisme, je dirais que dans le journalisme, il y a une posture d'observation et de volonté d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « ouais, cette manif, elle est super bien ». Le simple fait qu'on couvre la manif marque notre positionnement politique. Après, dans le traitement de l'information, il ne s'agit pas de servir une cause, mais de la raconter et de l'expliquer avec tout le recul que ça implique aussi. C'est-à-dire que, par exemple, on a tous, je pense, à peu près sensiblement la même sensibilité politique. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Il ne s'agit pas de prêcher pour des convaincus, en fait. Il faut, et c'est ça aussi, je pense qu'on a un petit peu de mal à faire, c'est d'aller chercher ceux qui ne sont pas convaincus, justement. Parce que ceux qui nous lisent, ceux qui lisent Le Point, ils savent déjà qu'ils vont y trouver leur compte. Et je pense qu'on peut attirer un autre public en prenant justement une certaine distance et en se désolidarisant un peu de notre solidarité quelque part pour tous les sujets qu'on couvre.
Merci. La brique. Allez.
Salut, c'est la brique. Nous venons de Lille. Pour essayer de répondre un peu aux questions qui sont posées là. Donc la brique, peut-être une contextualisation, c'est un média qui existe depuis 14 ans, qui est autofinancé, mais qui fonctionne uniquement avec des bénévoles. Donc on vend, en gros, chaque numéro finance qu'on vend, finance le suivant. Et on a un collectif de rédaction qui fonctionne avec de manière horizontale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de directeur ou de directrice de publication. Je ne sais pas si c'est le cas d'ailleurs dans Le Point. Enfin, en tout cas, on en a un officiellement parce qu'on est obligé d'en avoir un officiellement. Mais au-delà de ça, voilà, on se rejoint là-dessus. Et voilà. Et nous, on va vraiment construire ensemble nos articles, nos enquêtes, etc. Et ce que je voulais dire, c'est que quand la majorité des gens qui arrivent à la brique, sachant que c'est un collectif qui s'est énormément renouvelé, hein, en 14 ans, il y a eu plusieurs collectifs, plusieurs noyaux différents, peut-être 70 personnes qui ont fait partie du noyau et 300 personnes qui ont fait partie du collectif de la brique depuis 14 ans. Moi, j'y suis que depuis 3 ans, par exemple. Voilà. Et que... Je ne dors plus depuis 3 ans. Par exemple, moi, si je prends mon exemple, je suis arrivé par la lutte, en fait. Je suis arrivé par les luttes étudiantes de 2017. Il y a beaucoup de gens qui arrivent avec un militantisme, un background militant qui est déjà assez développé. Et d'ailleurs, on commence souvent en arrivant à la brique en parlant des luttes qu'on connaît. Et le pas de côté... Le moment où en fait on va parler peut-être d'autres sujets, il vient ensuite. Il vient parce que après avoir raconté ce qu'on avait envie de raconter un petit peu et après être resté dans la brique, parce qu'il y a plein de gens qui se barrent aussi après. voilà, on fait le pas de côté, on se dit bon, il y a un sujet qui m'a l'air intéressant, mais en fait j'ai pas trop de billes là-dessus. Comment je vais faire. Et nous, on est la brique, on réinvente un peu le journalisme à chaque fois que chaque contributeur ou contributrice de la brique réinvente un peu le journalisme d'une certaine manière, parce qu'on est aucunement formé, personne n'a de formation journalistique dans le collectif, et du coup on a énormément de biais, des biais militants, hein, du coup. Donc on va vouloir dire ouais, anti-patriarcat, anti-capitalisme, anti-colonialisme, on va arriver directement avec ça, et c'est justement en se disant bon, il faut quand même essayer de faire attention à ce qu'on dit, parce que même si on assume de faire de la propagande pour certaines idées, on essaye de le faire assez justement, et comme tu disais, en essayant d'explorer tous les aspects d'un sujet. Pour nous, cette question de toucher d'autres personnes, elle passe autant dans les sujets qu'on aborde que y a plein de manières. Nous, on s'est souvent dit à un moment, nos articles ils sont trop longs, donc il faut les réduire. Donc ça faisait 2 pages, c'est passé principalement à 1 page, nos derniers numéros, c'est quasiment une seule page par article. Et déjà, on se dit, c'est un peu plus accessible quand tu ouvres le journal. En plus, tu n'as pas de publicité, donc en fait, c'est vraiment énorme, 2 pages sans publicité. Donc ça, c'est un aspect. Et après, peut-être un autre aspect, c'est la question de la diffusion, qui est fondamentale. C'est que pour nous, les moments où on arrive à élargir le plus notre lectorat, c'est quand on se fait des motifs de vente directe dans des endroits qui ne sont pas les endroits où il y a des convaincus. Récemment, on a fait la réouverture des terrasses, là. Ça vendait très très bien, hein. La brique se relève de ce Covid grâce à ça, mais par contre cette question de, enfin il y a plein de gens qui ont découvert la brique à ce moment-là, et en fait à chaque fois qu'on vend la brique en vente directe, on fait découvrir la brique à des gens. On est aussi vendu dans des kiosques, du coup je pense qu'il y a plein de gens qui découvrent la brique par et du coup un média indépendant, hein, parce que je parle de la brique mais je parle des médias indépendants du coup. Par ce biais-là, et la vente directe, en fait, c'est ce qui est bien quand on parle aux gens, c'est qu'en fait, on les convainc, enfin, on leur dit, mais regarde ce qui se fait. Nous, à Lille, on a La Voix du Nord, qui fait partie du groupe Rossel, qui possède 1/4 du pays en termes de presse dominante. On leur dit, mais regarde ce que fait La Voix du Nord, regarde ce qu'on fait, on est quand même beaucoup plus cool. En plus, on vient t'apporter le journal directement à ta terrasse où tu es en train de boire une petite bière, donc c'est sympa. Et en fait, on finit par convaincre les gens, tout simplement. Et je pense que c'est en prenant le temps d'aller vers les gens, en fait, qu'on arrive à les convaincre. Par contre, c'est un travail de malade. Et nous, en fait, on s'en sort absolument pas. Et on sait très bien que majoritairement, on touche des convaincus. Ça nous fait chier, mais c'est quand on arrive à trouver la motivation de là, ok, on va, même dans la diffusion, on va faire ce pas de côté, on va élargir et voilà.
Merci, je crois que on a le même constat tous, je crois. Hein, c'est, peut-être qu'il y a un média qui va intervenir en disant « mais nous, on arrive à toucher tout le monde, franchement, on est trop contents ». Ce serait assez incroyable si on a ça ici, franchement, on aura réussi un truc, on aura le média alter qui arrive à toucher tout le monde sans aucun souci. Maintenant, je vais donner la parole à Cédric, qui est médiatiquement un petit peu connu pour passer des migrants. Et toi, tu as fait le choix du coup de... Enfin, tu as fait le choix de la c'est galère à prononcer. La médiatisation. Tu as fait le choix de la médiatisation. J'ai pas réussi à le dire non plus cette fois-ci. Et de faire appel aux médias mainstream du coup pour parler de ce que tu... Enfin, vous, nous, de ce qui est fait au niveau de la Roya pour aider les demandeurs d'asile qui sont dans la merde. Et je pense que ce serait intéressant que tu nous présentes la façon dont ce choix a été fait collectivement, parce que ça a été parlé quand même, ça a été discuté, cette façon de faire appel ou pas à des médias qui sont un peu de la merde. Mais si jamais tu fais appel... Bon, non, qui sont très bien, franchement... Non, je ne mets pas en opposition. Je dis, il y a des médias qui nous déplaisent, mais on peut faire appel à eux parfois pour des raisons X ou Y qui seront explicitées. Bon, bref, je donnerai le micro après, Tania. Voilà que je me fais enguirlander en direct. Oui, elle a raison, désolé, c'est pas de la merde, c'est vachement bien. Voilà, il y a des gens qui aiment, qui achètent ça. Bref. Et du coup, voilà, c'est pourquoi, comment, et comment ça s'est fait, comment ça s'est décidé, et comment tu gères, toi, le rapport au fait de savoir est-ce que vous allez solliciter, du coup, un média alter, en sachant très bien que son audience sera minime, ou sera des gens qui sont déjà convaincus qu'effectivement, c'est Réfugis Welcome et il faut accueillir les gens. Et comment toucher les gens qui ne sont pas dans ces combats, et voilà. Je te laisse le micro.
Ben, comment ça s'est passé? C'est Hubert. Qui c'est qui connaît pas Hubert? Ouais, tout le monde vous connaissez Hubert quand même. Hubert Jourdan. En fait, c'est le gars qu'il faut pas appeler quand il fait nuit. Je vous conseille, si vous appelez quand il fait sombre, ne le répondez pas, vous en avez pour 2 heures. Et Hubert Jourdan, c'est un gars qui accueille du monde chez lui depuis des décennies. Et qui fait ça avec beaucoup de simplicité. Et c'est un gars que je suis allé voir en rencontrant Francesca. Francesca, c'est une Italienne qui aidait beaucoup de gens à Vintimille. Et je l'ai rencontrée par hasard, Francesca, sur un quai de gare à Kentermer. Et moi, j'ai emmené une famille, elle aussi. On a discuté, etc. Elle me parle d'Hubert, que j'avais entendu parler. Et je me suis dit, tiens, allez voir Hubert pour un peu savoir comment il gérait, comment il faisait l'accueil, etc. Et je lui avais demandé, mais Hubert, comment tu gères toi l'accueil? Et ça a été la réponse la plus simple et claire que j'ai pu avoir. Il m'a dit, quand tu prends, ta cousine qui vient à la maison, comment tu l'accueilles, ta voisine, machin, ou ton voisin, comment tu l'accueilles? Là, tu fais pareil. Je dis, ok, ça a l'air assez simple. Et du coup, je commençais à accueillir beaucoup chez moi. Je n'étais pas du tout investi dans des associations. Il y avait Roya Citoyenne qui accueillait. Et Suzelle Priot, qui est une amie, qui me disait chaque fois, Cédric, tu ne veux pas mettre des tentes chez toi, machin? Je fais, non, moi, votre délire associatif, machin, la réunionite aiguë, tout ça, je veux pas du tout en faire partie, c'est pas du tout mon truc. Et avant ça, j'étais juste engagé dans, je faisais un peu ce qui se passe ici, on organisait avec des potes des fêtes, des petites fêtes, voilà, entre amis. Mais pas plus, je n'étais pas engagé dans une dynamique politique ou de revendication ou quoi que ce soit. Et du coup, je dis à Suzelle, non, je n'accueillerai personne chez moi, il est hors de question, laissez-moi tranquille. Et après, donc, je fais, y a Lucille. Lucille, c'est une fille que j'ai rencontrée, qui est venue dans la Roya. Et on a monté le CCH, connu à l'international maintenant, c'est le camping Cédric Héroux. Et donc moi, je... Hein ?
Très bien noté sur ta page d'ailleurs.
Ouais. Et donc j'allais chercher des familles, des personnes vulnérables à Vintimille, je les amenais à la maison. Et avec Lucille, on discutait avec ces personnes-là pour savoir où elles voulaient aller, etc. Et on les emmenait un peu où elles voulaient aller. Et il y avait toujours Roya Citoyenne qui nous courait après pour toujours faire partie, venir là aux réunions, etc. Nous, on n'avait pas trop envie. Et je me fais arrêter en août 2016 en flagrant délit de passage de frontière. Et à l'époque, je n'étais pas du tout médiatisé. Il n'y avait pas du tout de com ou d'investissement politique, associatif ou quoi que ce soit. On faisait ça dans notre coin. Avec l'aide de potes, de paysans qui nous filaient à bouffer, etc. Et je me fais arrêter et je bénéficie de l'immunité humanitaire par le procureur de la République et je vais pas en procès. Et ça a été une grande victoire pour les associations locales et de dire, enfin, la justice entend qu'il y a une précarité à Vintimille, que la fermeture de frontières, il y a des conséquences négatives qui sont absolument pas gérées par l'État. Il y a des gamins qui sont à la rue, il y a des familles qui sont à la rue, etc. Et forcément, Cédric Héroux bénéficie de l'immunité humanitaire. Et Hubert Jourdan, toujours le même, me dit, ouais, c'est génial, machin, nan, nan. Mais non, il faut médiatiser. Je fais, non, il est hors de question. Parce que moi, j'avais pas l'habitude à l'époque de parler à un micro. Quand j'organisais des événements, juste pour expliquer qu'est-ce que ça voulait dire l'autofinancement d'une association, on connaît ce que c'est, l'autofinancement, c'est quand même assez compliqué. Et rien qu'expliquer ça, j'étais là, je tremblais comme ça. C'était très nul. Même prendre la parole dans une réunion, j'arrivais pas à le faire. C'était pas du tout mon truc. Et je me suis dit, ok, on va essayer. Et du coup, je me suis rapproché là de Roya Citoyenne. Je leur ai dit, ok, c'était Nathalie Masseglia qui gérait tout l'accueil des médias. Et ils me disent, ok, on te met sur les adresses à aller. On commence à avoir des médias. Et les premiers médias, ça a été le Adam Nociter du New York Times. Et il vient là, il parle très, très, très mal français. Mais moi, je lis pas la presse du tout. Et le New York Times, j'ai jamais lu. Je parle pas anglais. Enfin, et le mec arrive avec un très mauvais français. Et je le trouve un peu teubé, quoi. Et il est là, il comprend pas trop. Je suis, quel tocard, celui-là. Et il me demande, est-ce que je peux rester? Je fais mal l'accent, mais j'aime bien le faire quand même. Est-ce que je peux rester quelques jours parce que le sujet m'intéresse beaucoup, machin. Et il fait venir Pierre Churchman, je crois, c'est un photographe, et qui arrive à la maison et il me voyait partir au milieu d'interview, machin, un peu, pas méprisé, mais un peu négligé, la dame Nociteur. Il me dit, non mais tu sais pas qui tu parles en fait, c'est un monstre du journalisme, c'est quand même un mec super important. Et je dis, non mais il comprend rien à ce que je lui dis, il est teubé le mec. Il me dit, non, pas du tout, mais juste qu'il hallucine la façon dont vous accueillez et la façon dont vous procédez. Et je lui dis, il va halluciner, ben viens, il va halluciner avec nous. Et je lui dis, ben viens, on va à Vintimille, on va prendre des gamins et on va les emmener à la maison. Et après, on va en gare. En gare de Cannes. En gare de Cannes, ça part, on arrive, et gare de Cannes, en fait, on arrive sur le parking du dessus, et là, t'as les marches en marbre, toutes blanches, et on arrive, c'est en plein été, t'as tous les touristes qui se baladent avec leurs crocs roses, vertes, avec leurs matelas, ils sont là en vacances sur la Côte d'Azur, quoi. Déjà, aller en vacances en Côte d'Azur. Déjà, y vivre, c'est dur, hein. Alors, passer les vacances sur la Côte d'Azur, c'est encore plus dur. Et ils sont là au milieu, et moi, j'ai tous ces gosses là d'Érythrée, les Érythréens sont assez petits, alors quand ils sont petits, ils sont vraiment très petits. Et on se fait un peu, il y a la police de Forêt-Vière qui débarque et tout, il y a la municipale qui débarque, la nationale, et on part en courant, genre en mode délit de fuite, on court, on monte dans le véhicule, on se barre et tout, on arrive à les semer, et lui il est là, il hallucine complet quoi. Et après il y a un article qui sort, on fait la première page du New York Times, que j'ai pas lu, pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je parle pas anglais, et là ça interpelle pas mal de médias locaux. C'est que France 3, Nice Matin, tout ça, ils avaient un peu rien à foutre. Voilà, Ciotti Estrosi n'aurait pas dit bah, va chez Cédric Héroux. Et là, ils commencent à s'intéresser. On se retrouve avec une ribambelle de médias à la maison. Et c'est super compliqué à vivre, quoi. C'est que moi qui n'arrive pas à parler, j'ai découvert ma calvitie sur France 3. Tu vois, et franchement, là, ça fait super mal quand tu te vois de dos et tu dis putain, merde. Et là ça fait mal. Non, j'ai pas de cheveux. J'ai assumé au début, ça fait mal quand tu dis non. Bon, t'oses pas dire, vous pouvez éviter de filmer les contre-champs là parce que ça brille trop. C'est... et au début, je me fais vachement de complexe. Je me dis putain, je parle mal, t'as la gueule que j'ai, putain. Et je me trouve nul, mais nul. Et je me dis, je suis pas à la hauteur du tout de faire tout ça. J'en parle à Réa Ustoyen, moi je me sens pas, et j'aime pas entendre ma voix, j'aime pas voir ma gueule. Et elle dit, bon, ok, et on essaye de mettre un peu plus le focus sur d'autres personnes qui accueillent dans la Vallée de la Roya. Ils sortent toujours ma gueule. Et ça a été un long débat au sein de Roya Citoyenne de dire, bon, ben, il devait commencer à y avoir une personnification de la lutte. Mais pourquoi en fait ? C'est pas parce que je parle mieux que les autres, pas parce que c'est juste que c'est vendeur en fait. C'est tout. Le paysan qui a pas peur, qui passe son temps en garde à vue, qui ose, et c'est ultra vendeur. Donc du coup, c'était le truc. C'est pour ça que les médias mainstream, ben, sont dit c'est le client au top. Et on a vachement de patience parce qu'on les a tous accueillis. On a dit non à personne à part un. Non, ils sont pas venus minutes, ils ont eu peur de ne pas pouvoir repartir. Mais non, c'est Cyril Hanouna qui nous a demandé il y a pas longtemps. Et j'ai jamais vu, et j'ai vu, et je n'ai plus revu. Et on a dit non. Non, mais ça aurait pu être bien, ça a été un grand questionnement. C'est justement pourquoi aller dans des médias qui sont à l'opposé de nous. Et ça peut sensibiliser des gens aussi. Et je pense que ce que vous faites, vous, en tant que journalisme, un peu plus de terrain, militant, parce qu'on parle souvent d'objectifs dans le journalisme, je pense que l'objectivité n'existe pas. Il y a forcément un effet subjectif. Et de dire que c'est objectif, ça n'existe pas. Ça veut dire comme s'il n'y a pas de racisme dans la police. C'est un peu pareil, quoi. C'est l'objectivité n'existe pas. Et forcément, je sais pas où j'allais là. Moi, je parle, j'oublie. Tu veux que je te raconte une histoire, mais du coup voilà, on médiatise, etc. Donc c'est vachement compliqué pour moi de médiatiser tout ça. Et après, je commençais un peu plus à assumer tout ça. Et je me dis, bah, ça fait un peu chier le montage, tu vois, quand encore la presse écrite, j'aime bien, la radio, j'adore. En fait, c'est psy, en fait. C'est une séance de psy où tu peux parler et tu vois, t'es seul face à un micro, une personne qui est souvent bienveillante. Et tu parles, et ça fait du bien, quoi. Tu vois, et c'était plus pour moi que je l'ai fait que pour la lutte. Et ce qui a été compliqué, c'est tout ce qui est presse visuelle, là, comme on dit, avec les caméras. Et c'est qu'il y a la télé, ouais. C'est qu'il y a une rythmique super forte. Enfin, c'est il y a grosso merdo, une image par seconde. Tu peux parler 3 secondes et demie et tu vois que c'est vachement monté, vachement coupé et le message ne te convient pas. Tu dis, et là, tu veux choper le direct. Tu veux, je veux du direct. Mais avoir accès au direct, c'est super long, super. C'est long, quoi. Que les gens prennent le risque de t'inviter pendant 20 minutes et se dire, bon, j'espère qu'on ne va pas se faire chier. Je me rappelle, j'avais été invité pendant la sortie du film de Michel Toesca qui est là, Libre. J'avais été invité à On n'est pas couché. Et j'étais l'invité principal politique. J'étais l'invité politique. Paysan, bac moins 4, bonjour, c'est Vaquerou. Et on arrive avec les attachés de presse. Les attachés de presse, ils devaient me rassurer, tout ça. En fait, ils m'ont angoissé. Mais Cédric, t'es sûr que ça va? T'es pas trop stressé? Non, ça va, ça va. T'es sûr, tu veux boire? Oui, mais, mais je suis pas stressé non plus. Et il y a une meuf qui arrive pleine de cesse, à mon avis. Et toute speed, qui me dit Monsieur Héroux, parce que j'étais assez calme, je suis assez calme quand même, à part quand je m'énerve, mais c'est rare, et qui me dit, bon, vous n'allez pas rester comme ça, là, 45 minutes, il faudra un peu vous sortir les doigts du cul, il faudra un peu bouger votre cul. Oui, d'accord, je vais essayer, machin. Et elle me dit aussi, bon, faites attention quand vous arrivez sur le plateau, il y a une marche et tout, et on m'avait prêté des chaussures en 45, je fais du 42, et je tâche avec mes grosses pompes comme ça, parce que mes chaussures ne passaient pas à la télé, c'était pas possible. Et j'étais ultra stressé sur le plateau, j'avais les veines là qui étaient gonflées. En fait, les gens qui me connaissent le voyaient. Mais après, ce qui est intéressant d'arriver là-dedans, c'est qu'on touche des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés et on devient porte-parole de quelque chose et on ne parle plus en notre nom, on parle au nom d'une cause et on essaye d'englober toutes les idées. Et du coup, forcément, moi, je suis allé à l'inverse de ce que je pensais moi-même quand je parle de valeurs républicaines, etc., ou de citoyenneté, tu vois, je chie sur la citoyenneté, quoi. Je veux dire, il n'y a pas longtemps que ça, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'étaient pas des citoyennes, les enfants ne sont pas considérés comme des citoyens, les étrangers ne sont pas considérés comme des citoyens, et de parler de citoyenneté, de valeurs républicaines, mais en fait, je me suis prostitué, en fait. Il y avait besoin de faire la pute, je pense, pour créer quelque chose. Et je pense que grâce à la médiatisation, on a pu aussi créer Emmaüs Roya, parce que ce n'était pas non plus simple. Vivre de la paysannerie, c'est compliqué. Je suis paysan depuis 2006. Et de refiler à une association une activité agricole en sachant que déjà, moi, tout seul, j'avais du mal à en vivre. Et là, maintenant, on a la prétention d'être 3 salariés. On était 4 il n'y a pas longtemps. Et on était 4 salariés avec 9 personnes, 7 personnes en précarité qui étaient là à vivre de ça. Donc on est 10 personnes à vivre grâce à cette structure-là. Et je pense que c'est aussi grâce à la prostitution que j'ai pu subir. Voilà. Et voilà.
Bah écoute, c'est un neveu magnifique, hein, Cédric Héroux, qui dit en public que c'est grâce à la prostitution qu'il a réussi à réussir sa vie. C'est magnifique. Voilà, tout le monde est au courant. Et mais là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, s'il n'y avait pas eu cette médiatisation, je vais y arriver au bout d'un moment, mais le mot est très complexe. S'il n'y avait pas eu cette médiatisation, par exemple, avec le procès de Lyon, le fait que le délit de fraternité, c'est le fait que ça a été, pour le coup, techniquement, maintenant, si jamais t'héberges un demandeur d'asile, t'es quand même plus peinard, c'est grâce à la médiatisation qui a été faite de cette lutte-là. Donc, pour le coup, c'est un exemple de médiatisation réussie d'une lutte qui a donné lieu à, clairement, une victoire. Mais c'est une victoire qu'on doit à un combat juridique, et on remercie beaucoup Zia et l'ensemble des avocats d'Emmaüs Roya et DTC, et Sabrina, et voilà, c'est pour leur talent. Mais c'est une victoire qui est due aussi au fait que ça a été médiatisé. C'est une victoire qu'on doit au mainstream, en fait. C'est parce que les médias mainstream se sont intéressés à cette lutte qu'on a eu cette victoire dans le monde militant. C'est paradoxal, mais et c'est vrai que pour nous, on a actuellement, tel qu'on est maintenant, en tant que média alternatif, on n'a pas la caisse de résonance nécessaire et suffisante pour avoir le même impact et pour obtenir les mêmes victoires. Donc l'idée, ce serait de se demander comment on fait, du coup, pour obtenir cette victoire qui a été obtenue via Emmaüs Roya. On me dit que je parle trop, mais voilà, mais je vais le faire plus vite, ça va. Bref, voilà, tu m'as déconcentré, Marine, voilà, j'ai été déconcentré. Du coup, voilà, enfin bref, t'as un truc à dire? Prends le micro, dis un truc, fais une réaction.
Bah en fait, il faut savoir s'en servir, parce que ce qu'on appelle la presse mainstream répond à une logique d'audience et donc de chiffres. Et c'est ce qui nous distingue, nous, même si on galère, qu'on se paye pas, etc. Pour moi, on fait pas le même métier et pas pour les mêmes raisons. Et il faut pouvoir se servir de cette médiatisation, tu as raison, pour faire passer nos messages. Mais après, est-ce que si on grandit automatiquement, on va devoir répondre à cette course aux chiffres, je sais pas, mais pour moi, il faut savoir se servir de la presse mainstream. Nous, à la Mule, on n'y a pas encore été confrontés parce qu'on n'a pas eu d'interview à faire. On sort une revue dans 2 semaines, on va essayer de la médiatiser et on va se servir de des grands médias qu'on a dans la région pour en faire parler. Et pour moi, on doit s'en servir que pour ça, qu'on doit ni la combattre, ni on fait pas le même boulot, tout simplement.
Ouais, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis et sur ce qui a été dit avant. Mais la question de l'objectivité, notamment ce genre de truc, en fait, ce journalisme de masse et tout, il se prétend une certaine objectivité. Et nous, du coup, on se fait un peu confronter de force à cette notion-là, quoi. Alors que j'ai pas l'impression, en allumant ma télé ou en lisant Le Monde ou je sais pas quoi, qu'il est question d'objectivité. En fait, on a tous une couleur politique. Le journalisme, la médiatisation, c'est un rôle social, en fait. C'est un truc qui est au cœur de la société. Et c'est intrinsèque au phénomène de médias, en fait, et au fait d'être un média. On ne peut pas être objectif dans les sujets qu'on choisit, dans tout ce qu'on fait. Et en même temps, on a quand même une obligation de coller à la réalité et de retranscrire des faits, quoi, des choses qui sont vérifiables, qui peuvent être corroborées par d'autres personnes. Et c'est ça qui... Enfin, tout à l'heure, tu parlais de biais, tu vois, on a un biais militant, on a un truc comme ça. Non, en fait, on n'a pas un... Enfin, pour moi, c'est pas négatif, en tout cas, ou c'est pas quelque chose qui doit nous préoccuper particulièrement, dans le fait où, quand on allume la télé, en fait, on a des bons gros militants du néolibéralisme face à nous, et voilà, j'ai l'impression qu'on prend cette question hyper au sérieux, en fait, nous, dans le journalisme indépendant, et on y est confronté sur le terrain aussi, on nous dit « Ouais, mais t'es pas un vrai journaliste, tu vois, les flics nous disent « T'es pas un vrai journaliste ». Mais pas que les flics, d'ailleurs, enfin... Un peu tous les sujets auxquels on est confronté nous renvoient cette image-là, quoi. Alors qu'en fait, on fait la même chose. Est-ce qu'on peut parler de propagande ou pas ? J'en sais rien, mais on représente ce qu'on pense, ce qu'on est. On utilise des moyens techniques de diffusion pour diffuser cette parole-là. On fait ni plus ni moins. Après, effectivement, on n'a pas le même boulot, dans le sens où notre approche des luttes qu'on va couvrir, en fait, elle va se vouloir exhaustive. Elle va vouloir laisser du temps de parole aux personnes qu'on interroge. Elle se veut explicative et pédagogique dans cette idée, en fait, d'agglomérer de plus en plus de gens autour d'une lutte ou quoi. Mais on joue pas du tout le même rôle. Et c'est vrai que la presse mainstream, effectivement, en fait, elle est incontournable. On parle de luttes qui ont gagné. Je connais pas de luttes qui ont gagné sans avoir une couverture nationale, en fait. À minima, quoi, par de la presse mainstream. Et en gros, on est dans les cas de la lutte, il y a un rapport de force entre un pouvoir politique et une partie de la population qui se mobilise, en fait. Et ce pouvoir politique, il pense en termes électoraux, il pense en termes d'image, il a complètement inclus cette notion médiatique. Donc tant qu'on ne touche pas, en fait, un maximum de personnes avec une information, même si elle est pourrie, en fait, et qu'elle est modifiée, qu'effectivement tu vas parler de tel sujet pendant 5 minutes et on va sélectionner 20 secondes qui vont être les plus caricaturales, en fait la victoire peut pas passer par autre chose que cette phase ultra médiatique, en gros, quoi. Et je prends juste je fais un parallèle entre deux luttes, par exemple, qu'on a suivies avec la Mule. D'un côté, il y a la lutte de la Massade dans l'Aveyron, donc qui a lutté contre un projet de méga transformateur industriel. Voilà, c'est vraiment l'industrialisation des campagnes, l'éolien, un peu l'arnaque de la transition énergétique. Donc c'est un sujet porteur qui est hyper intéressant sur plein de plans, parce qu'aller se battre contre une énergie renouvelable, c'est un peu à contre-temps, ou ça peut paraître à contre-temps, et qui est une lutte qui a échoué, en fait. Et de l'autre côté, la lutte à Fournaise, dans le Gard, qu'on s'est rencontrés là-bas, et que les camarades du Point aussi ont suivi et suivent, quoi. Et c'est une lutte où il y a un an, en fait, il y avait un collectif de 10 personnes qui luttaient, quoi. Il y avait absolument rien qui était fait, et en fait ils ont eu c'est un dossier, donc, en fait, contre un méga entrepôt d'Amazon, un entrepôt de tri centre logistique, et en fait les deux stratégies au niveau médiatique ont été complètement différentes, quoi. Sur le côté aveyronnais, la Massade, ils ont voulu s'en tenir à la presse quotidienne régionale, faire confiance à plein de petits médias indépendants qui ont pu venir sur les lieux, etc., faire des trucs quand même assez complets et tout, mais qui n'ont pas eu une audience de dingue. Et pas vraiment, en fait, essayer de mobiliser à fond les médias nationaux et tout. Et à Fournes, en fait, il y a eu un pont qui a été fait avec le militantisme un peu plus traditionnel, écologiste, qui a tout de suite appuyé sur cette notion de médiatisation nationale. Et au final, au bout de quelques mois, ça a fait la une de Libération, et c'est passé dans des grands médias, Mediapart est venu, etc. etc. Et en fait, en quelques mois, ils ont fait autant d'audience et de percussions médiatiques que ce qu'avait fait la Massade en 4 ou 5 ans, quoi. Et voilà, et depuis, le projet est complètement gelé, quoi. Il ne s'est rien passé, il y a une enquête pénale qui a été lancée contre des conflits d'intérêts, le truc n'avait pas avancé d'un iota pendant un an. Là, tout d'un coup, c'est médiatisé, il se passe des trucs. Et en fait, là, au dernier rassemblement, il y avait vraiment une perspective de victoire, quoi. Et ça ne serait pas passé par là s'il n'y avait pas eu la médiatisation à travers les grands médias nationaux. Même s'ils vont raconter la lutte de Fournes complètement à l'arrache, ils vont utiliser que les trucs les plus sensationnels, le conflit d'intérêts, etc. Tout le Amazon bashing derrière sur l'évasion fiscale, les conditions de travail, etc., il sera même pas bien retranscrit. Mais la réalité, c'est le nombre de personnes touchées, en fait, derrière, qui représente un risque politique pour les décideurs, mais aussi pour Amazon, pour les multinationales contre lesquelles on se bat. Et voilà, donc je pense qu'en fait, on a des actions qui sont complémentaires. Et que bah, quand on bosse sur le terrain, on rencontre aussi des journalistes de mass media. Et non, c'est pas des gros collabos vendus, etc., ou des gens complètement cons, tu vois. Au début, ils connaissent rien à la lutte qu'ils sont en train de couvrir, mais ils sont déjà là pour la couvrir. Et puis au bout de la quatrième, cinquième fois qu'ils reviennent, bah, ils comprennent un peu plus, quoi. C'est pas des militants, etc. Et ils ont quand même cette certaine liberté-là, même s'ils se font caviarder des papiers, qu'ils sont pas totalement libres dans le choix de leur sujet ou quoi, ils ont quand même une certaine liberté dans ce qu'ils disent aussi, quoi. Donc il faut qu'on cherche aussi, sans dire ouais convergence grands médias et médias indépendants, tu vois, mais il faut qu'on cherche quels sont les points forts, les points faibles qu'on a les uns les autres, comment on se complète, tu vois.
Tout à fait juste. Et ouais, enfin après du coup là, ouais, la question qui se poserait, ce serait à quel point du coup on est prêt à se... Oui, je sais, je dis beaucoup du coup, je dis tout le temps du coup. Tu m'as regardé. À quel point on est prêt à se prostituer pour parler de nos luttes et pour parler de nos combats. Enfin, nous, par exemple, avec les locaux de Mouet, au 20 rue de la Condamine, c'est l'appartement dans lequel on vit avec Jérémy, qui est quelque part par ici. Et on est expulsable. Et du coup, le choix a été fait de solliciter Nice Matin, parce qu'ils ont une nouvelle journaliste qui s'appelle Alice et qui est vachement cool. On les a sollicités pour médiatiser, parce qu'on sait très bien que Nice Matin ne lit pas Mouet. Enfin, Nice Matin, non, la mairie de Nice ne lit pas Mouet, ne lit pas notre journal. Ils sont foutent. Par contre, la mairie de Nice lit Nice Matin. Donc, on a fait le choix de demander à cette journaliste de venir dans notre squat forcé pour parler de nous. Et ce choix a été fait. Mais la question se pose, bah, je te dis, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va donner au final? Est-ce que ça va être un bon article? Est-ce que vraiment ça sert? Est-ce que ça va dans le bon sens? Enfin, c'est toujours une question qui est compliquée, en fait, la façon dont tu vas interagir en tant que personne qui a un problème, juste au-delà du militantisme, en fait, au-delà de l'activisme, à quel point ça sert et à quel point on va se prostituer auprès d'instances qu'on a tendance quand même à critiquer de façon assez, assez massive. Donc voilà, je te redonne le micro. Et ensuite toi.
À la limite, je vais faire très court parce que je fais un bond en arrière de 10 minutes. Quand je voulais revenir sur la notion d'objectivité que Jude évoquait tout à l'heure. Pour moi, l'objectivité, comme disait Cédric aussi, on ne peut pas l'avoir. Par le simple fait de choisir un sujet, en fait, on montre un petit peu de quel côté on est. Je remplacerai cette notion d'objectivité qui nous prend tous beaucoup la tête, on en parle souvent, par la notion d'honnêteté intellectuelle, en fait. Et pour moi, c'est là-dedans qu'il faut être. Et que l'on soit pour ou contre le sujet sur lequel on va, par exemple, si j'avais dû faire un article sur Cédric, j'aurais essayé de donner les clés pour comprendre, mais j'aurais pas dit youhou, je me serais pas permis de mettre vive les réfugiés, quoi. J'aurais expliqué aux gens ce qui se passe de sorte à ce que eux-mêmes se fassent un avis, mais Mais voilà, de la même manière que si je fais un article sur les violences policières, je vais expliquer le phénomène de basculement vers l'extrême droite, l'armement de la police, etc., etc., le contexte social. Mais à partir du moment où je vais écrire ACAP dans un article, pour moi, je vais perdre en crédibilité.
C'est peut-être sur un autre terrain qui, à mon avis, est fondamental pour la presse, pas pareil, ou la presse indépendante. On est dans un climat idéologique totalement nauséabond, totalement, grave, boueux, et qui justement ne cesse de mettre les choses en clanisme. C'est-à-dire, on est d'un côté, on est de l'autre, Israël, Hamas, etc. Des choses comme ça. Et je crois que du coup, on a une sacrée responsabilité sur ce genre de choses, en termes de réflexion à partir de sujets qui peuvent se poser. Et ça, c'est quelque chose que la presse mainstream ne fait absolument pas. Et de mener effectivement un travail d'enquête et un travail de réflexion qui permettent d'arriver à repenser, enfin à penser tout simplement, parce qu'on pense plus. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi une des responsabilités, en tout cas pour moi, par exemple, dernièrement, sur la question de l'islamophobie et sur la question, j'y reviens, mais c'est très important pour moi parce que il me semble que c'est la racine du monde, la question de ce qui se passe en Palestine. Et du coup, ces clés-là, on ne les trouve jamais. Enfin, ces clés de réflexion, cette possibilité de dépasser des oppositions, c'est notre responsabilité. Voilà.
Par rapport à ça, c'est sûr que parfois, quand on sent qu'on a une vraie utilité sociale, pour quand on fait quand on sort des papiers que les médias dits mainstream ne peuvent pas faire. Pendant les Gilets jaunes, c'était flagrant. À Montpellier, par exemple, la Mule du Pape et Le Point. Et bien, clairement, pour avoir les bonnes infos sur les Gilets jaunes, il fallait nous lire. Parce que les Midi Libre, etc., ils parlent à la préfecture. Ils n'ont pas les mêmes réflexes. Ils vont tout de suite parler aux flics. Ils vont considérer que c'est... Ils le font parfois presque honnêtement, de leur côté. C'est-à-dire qu'ils vont interroger le policier. Ils pensent vraiment que le mec lui dit la vérité et que lui, il a fait un bon papier, etc. Donc là, on a une utilité sociale, parfois, tout simplement parce qu'on est là, on est présent et on dit ce qui se passe. Donc, oui, évidemment, il faut se servir des grands médias. Encore un exemple concret, toujours les Gilets jaunes. À Montpellier, nous, à un moment donné, on a fait un article. On a dit, voilà, à Montpellier, la police tire au fusil à pompe sur les Gilets jaunes. Et on avait trouvé une cartouche. Donc, je considère que c'est une grosse info quand même. C'est des balles semi-létales. On peut être demi-mort, visiblement. Et du coup, moi je me rappelle, j'avais appelé un mec du Midi Libre et je lui dis quand même, c'est une info, c'est du lourd quoi. Enfin, dites-le, citez-nous ou pas, si vous voulez. Mais enfin, et ça s'est pas passé. Au final, Mediapart a repris l'info et l'arme a été retirée du dispositif du maintien de l'ordre. Donc là, on se dit bon, c'est du lourd. Enfin, ça pèse quand même. Là, on est content quoi. Donc oui, il faut servir des gros médias et plus que ça, il faut les conquérir. Disons, on ne peut pas se complaire dans des petits médias alternatifs avec une petite visibilité. C'est un état de faiblesse qu'on subit. Enfin, moi, je considère qu'on le subit. Et on aimerait bien avoir la puissance de feu du Monde ou d'un gros média. C'est-à-dire, moi, par exemple, des fois, je lis des médias ou Le Figaro, par exemple, ou quoi, où éditorialement, ça va être tout pourri. Sauf que s'ils ont été couvrir tel conflit dans le Monde et qu'ils ont un envoyé spécial... Bah toi, t'as beau avoir l'opinion la plus juste selon toi, t'es pas là-bas. Du coup, en fait, t'as rien à dire. Et le mec du Figaro, peut-être qu'à la fin, sa conclusion, elle va être ignoble, mais le fait est qu'il est sur place, donc bah, il a les infos. Et cette puissance de feu, je pense que c'est ça qu'il faut avoir. Et le jour où il y aura une révolution, etc., bien sûr que la conquête des médias, bien sûr que c'est pour moi un enjeu majeur. À Montpellier, par exemple, il y a l'imprimerie de Saint-Jean-de-Védas. C'est une imprimerie, ils éditent Midi Libre, ils éditent tous les journaux du Midi. En gros, ils éditent, je ne sais plus c'est combien de... Mais ils éditent, mais c'est Michel Baillet. Vous voyez Michel Baillet, là, c'est un type, il a tous les médias en France. Et ça tient dans une imprimerie de merde, avec une toute petite route, facile à bloquer, etc. Et c'est pour dire que dans les cadres des mouvements sociaux, en tout cas, ce serait bien effectivement que les gens aussi se réapproprient la question médiatique, quoi. Et qu'en gros, bien sûr qu'à terme, et essayer de réquisitionner les moyens de production des grands médias, c'est évidemment un enjeu majeur. Enfin, en tout cas, tout ça pour dire qu'on ne se complaît pas dans la minorité, dans le à l'arrache. On aimerait bien avoir des salaires, se mettre bien, pouvoir envoyer des envoyés spéciaux dans des pays, faire du prime time, du direct. On aimerait bien avoir tout ça. Voilà. Et parce que parfois, on peut avoir l'impression que les grands médias, ils seraient mauvais. Enfin, moi, en tout cas, je parle pour moi. Moi, j'aimerais bien qu'on ait cette puissance de feu. Bon, voilà. Il n'y a qu'à Faucon, mais...
Est-ce que quelqu'un veut reprendre le micro ici ? Cédric, en tout cas, ajouter. Vas-y.
Après, la question, c'est est-ce qu'il faille se comparer ou se mettre des complexes parce que c'est un travail différent, je pense. Tu vois, entre un média mainstream et une des publications qui sont plus à destination d'un public militant, mais c'est que les militants aussi ont besoin d'avoir des infos, d'avoir un champ lexical, de s'informer. Il y a des luttes qui te sensibilisent, que tu vas voir sur France 2, TF1 ou autre, et après tu vas te documenter avec une presse alternative. Et je pense pas qu'il faille vouloir conquérir ou quoi que ce soit, c'est que c'est deux choses en fait. C'est deux choses, et il faut pas vouloir forcément se comparer ou ressembler, quoi. Parce que si le jour où tu veux ressembler à eux, tu finiras comme eux en fait. Il n'y a pas. Et j'ai l'impression que dans notre société, en fait, on nous apprend à ce que les petits seront forcément les plus faibles. Et tu vois, et les plus faibles sont forcément les petits, en fait. Il y a ce truc où ce qui s'est passé à la maison chez moi, là, sur ce petit morceau de terre tout petit, hein, ici, c'est une ferme de 30 hectares, je pense. Moi, j'ai 3 hectares, quoi. C'est vraiment tout petit. Je pense que ce qui a joué, en fait, dans le rapport de force, c'est la petitesse. C'est qu'en face, on avait un espèce de gros rouleau compresseur et nous, on était le pauvre petit papillon, etc. Mais écraser un papillon avec un rouleau compresseur, c'est pas l'outil adapté, quoi. Il faut un outil rapide. Et on a été beaucoup plus rapide qu'eux parce qu'on a... moi, j'ai pas de crédit, j'ai pas de loyer, j'ai pu mettre mon exploitation agricole en veille et pour pouvoir lutter, quoi. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer et vouloir ressembler. On alerte face, on se sert en fait. Je crois que la position de force se fait aussi avec les gros médias, et après les gens qui voudront rejoindre la lutte vont se renseigner avec des petits médias qui sont plus abondés, qui sont plus... Et c'est pour ça que vouloir ressembler en essayant de faire des articles plus petits, des trucs plus synthétiques pour ressembler à... Mais c'est qu'on se fait bouffer, en fait. On se fait bouffer dans une logique qui est... Et je pense pas que les journalistes... C'est pour ça que moi, j'ai été souvent critiqué par des... J'avais discuté avec Philemon quand il m'a invité. Ce serait bien d'inviter quelqu'un qui soit contre ce que j'ai fait par rapport à la médiatisation. Il y a beaucoup de gens qui étaient complètement... contre tout ce qu'on a pu faire au niveau médiatique. Et ça aurait été intéressant, d'ailleurs. Et c'est qu'il y a une volonté, en fait, de faire croire que le petit perdra forcément. Et c'est que, quand il y avait le film de Michel, je reviens là-dessus, on a fait avec Marion une tournée des villages et des villes de France, et c'est les gens ont besoin d'éléments de réponse, en fait. Et c'est que des fois, tu as une sensibilité, tu sais pas comment l'argumenter, tu sais pas comment la construire, et le fait d'aller voir des gens, d'écrire à des gens, même s'ils sont pas nombreux, c'est pas grave, et de répéter à chaque fois, de dire oui, mais souvent, ce que j'entendais dans les associations, c'est dire ouais, mais on se retrouve toujours entre nous, on n'arrive pas à s'ouvrir à l'extérieur, mais c'est pas grave, en fait, tu vois, parce qu'il y a besoin de s'auto-convaincre, il y a besoin de se rappeler, il y a besoin de discuter avec nous et entre nous, et il y a besoin de ça, en fait, pour se construire une force assez forte et assez vive de construction intellectuelle. Et c'est pas tout seul qu'on y arrive, c'est forcément en se servant de ce que vous faites et d'essayer de vous comparer à eux. Il faut pas, en fait, parce que ça veut dire que vous êtes fait bouffer, quoi. C'est vraiment, il faut sortir du complexe et de le faire. Souvent aussi, j'entends avec les associatifs de dire oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le monde change ? Mais on n'arrivera jamais à changer le monde, il faut arrêter de rêver, quoi. C'est juste à donner de l'amour dans ce qu'on fait et donner de la volonté, et on va perdre, c'est évident, quoi. C'est évident. Mais oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. C'est pas terrible. Parce que ça nous rend heureux, quoi. Et la lutte sans joie, la lutte sans humour, ben on se fait bouffer, en fait. Et il y a un moment, c'est que même si on va pas gagner, en tout cas, comme on le vit, la vie, ben, elle nous alimente. Elle fait que le matin, on se lève, même si on a dormi 3 heures, n'est-ce pas, Philemon ? est-ce qu'on a les cheveux qui tirent, etc. On arrive quand même à lutter parce que ça a du sens pour nous, quoi. Et ça, je crois qu'il faut pas le perdre et pas se faire bouffer justement par les gros et essayer de vivre notre vie avec un maximum de subjectivité.
Je suis assez d'accord avec toi. Et je pense que le fait aussi d'être un petit média, c'est pas forcément péjoratif, ça nous permet aussi d'être libre en fait, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi qui nous permet de faire ses choix, de couvrir ses luttes, parce que finalement on a peut-être un peu moins de comptes à rendre, parce que les journalistes des médias mainstream, ils ont un chef au-dessus d'eux, alors, je sais pas comment fonctionner ici, mais ils ont des obligations, ils sont dans un espèce de cadre dont ils peuvent pas sortir, et je pense que ce fait-là d'être un petit qui prend pas beaucoup de place, mais qui a sa place quand même, ça nous permet d'être libre, de faire presque ce qu'on veut. Tu parlais d'honnêteté intellectuelle, Matt, c'est ça. Ça nous permet aussi d'être à la fois honnête avec les luttes qu'on couvre, avec les militants et les militantes qui font le taf aussi, et avec nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est hyper important.
Et Clara, elle parle de petites places, de petits médias indépendants et tout. Mais en fait, c'est une place qui est mouvante, quoi. On est tout à fait capable d'incursions dans l'espace médiatique qui parfois sont vachement violentes. La Mule, on est né sur le mouvement des Gilets jaunes, et en fait c'est le premier truc qu'on a commencé à couvrir chaque semaine en vidéo, etc. Et au bout d'un moment, c'était à Montpellier, ça a été assez violent quand même comme manif et tout. On allait presque à la pêche aux violences policières, quoi, et chaque semaine t'avais un truc à sortir et qui prenait une caisse de résonance en fait à travers les réseaux sociaux, quoi. Et je pense qu'on ne peut pas aussi maintenant aujourd'hui esquiver cette question-là des réseaux sociaux, et nous on y est très confrontés ces derniers temps, parce que c'est des espaces médiatiques en fait, et ce n'est pas le schéma traditionnel du média mainstream ou quoi, il y a des logiques complètement différentes, algorithmiques, et voilà, nous là on est un peu confrontés à un truc ces derniers temps, je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous dans le Nord ou quoi, mais on fait un constat unanime sur tous les médias indépendants de Montpellier, c'est qu'on a eu un pic énorme de diffusion pendant le mouvement des Gilets jaunes et quand le mouvement social était vraiment à fond, quoi. Et depuis qu'il y a la crise du Covid, on a chuté complètement en matière de diffusion. Et il y a eu des changements de logique algorithmique sur les contenus politiques aussi, quoi, qui viennent nous heurter complètement et faire chuter complètement notre diffusion, quoi. Ça devient de plus en plus compliqué en fait, d'avoir un espace là-dedans, en étant en dehors de cette logique-là de l'actu hyper instantanée et prégnante, et où là on est repris aussi par les médias mainstream, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que les quelques fois où on a fini dans le Check News ou je sais pas quoi, ils mettaient la Mule du Pape, collectif de journalistes indépendants, ils mettaient journalistes indépendants entre guillemets, tu vois. Et à chaque fois qu'on était cité dans des médias comme ça, quoi, t'avais toujours ces guillemets-là qui venaient là et soulignaient cette espèce de différence. Enfin, c'était juste pour l'anecdote, quoi.
Merci, c'était fort intéressant, effectivement. Et après, hier, on devait faire un atelier sur les nouveaux médias, réseaux sociaux, etc. Il n'y a personne qui a voulu participer à ça, franchement. C'était vraiment un truc de vieux, quoi. On a trouvé personne, on n'a pas pu le faire, le truc. Donc voilà, faut en parler à quelqu'un qui adore Twitch, qui pourrait nous en parler, mais ça sera pour les prochaines assises, du coup. Maintenant, je donne la parole à Tania de Ligne 16, qui est un média citoyen local de Nice. Oui. Ah, il y a un passage de pub, visiblement.
Donc, c'est la publicité pour la vaisselle. Je vous rappelle le principe de l'auto-wash. C'est chacun lave son assiette, sa cuillère, sa fourchette, je suis pas ta mère. Et donc, vous avez trois bacs, vous passez par les trois bacs. Et merci de ne pas déposer vos assiettes bêtement dans le premier bac et d'attendre que les bénévoles nettoient. C'est tout, merci.
Un message intense. C'était parfait.
Alors bonjour, donc moi c'est Tania, je m'occupe d'un média participatif que je qualifie pas trop de militant, mais plutôt d'accompagnement auprès des jeunes, puisque je fais un atelier tous les mercredis, et donc je pars des jeunes et des sujets qu'ils souhaitent découvrir à travers l'interview, donc le micro, et à la suite de ça, ils montent sur Audacity le son et ils écrivent un peu leur aventure avec les photos qu'ils choisissent. Donc donc ça c'est le projet, hein, Ligne 16, c'est un média sur Internet. Après, souvent les jeunes me demandent en effet, est-ce que on est écouté, quel est l'audimat, et ça c'est quelque chose moi que je mets de côté. On a 830 abonnés sur la page Facebook, puisqu'effectivement je relaie toutes les publications du média sur la page Facebook pour les gens intéressés qui sont abonnés, comme ça ils savent qu'il y a une nouvelle actualité sur le média. Mais après, moi, je ne suis pas du tout dans le combat des médias mainstream, puisque pour moi, c'est quand même l'exemple d'hier de Tout aux frontières. Par exemple, c'est quand même les médias singuliers qui relaient et s'approchent sur le terrain des réfugiés et de la cause. Après, les médias mainstream, on sait tous que c'est une grosse problématique financière, puisqu'ils sont financés par nos élus ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai connu Nice Matin où il y avait un journaliste de quartier sur l'Est, puisque j'ai toujours travaillé sur les territoires Est. Et du coup, le gars, il suivait l'info. Là, en fait, c'est pas du tout le cas. Déjà, pour avoir un journaliste, c'est compliqué. Quand on l'a, il décide du temps. Forcément, moi, les jeunes, je les ai le mercredi. Et Ligne 16, c'est pas Tania Cognier, mais c'est une équipe. Le photographe, n'en parlons pas. Lui, il vient, il a un one shot. Il te fait poser un jour où les jeunes ne sont pas là. Donc, tout ça est très compliqué. N'empêche que lorsqu'effectivement les médias mainstream décident de parler de nous, ça fait connaître une autre information possible. Et les opposés, je pense pas, parce que dans les journalistes de Nice Matin ou d'autres, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont aussi de notre côté. Par contre, ils ont les mains tenues, quoi. Soit ils quittent le boulot, ils font autre chose, soit ils font un journal en parallèle, je sais pas. Mais je pense que c'est un autre combat. L'objet de ce débat, c'était militantisme et médias mainstream. Bon, presse pas pareil. Il faut savoir que depuis tout temps, ce qui a intéressé les gens, c'est les faits divers. Donc aujourd'hui, avec le journalisme numérique, c'est encore pire. C'est le scroll à souhait. Et ce qui intéresse, c'est le titre tapageur. On en parlait tout à l'heure avec David, là, Stéphane et Lola sur Tout aux frontières. C'était une mobilisation comme jamais il y a eu à Nice. Moi, j'habite à Nice. Je suis hyper contente que ça soit à Nice, que ça se fasse, puisque quand nous, on sort de Nice, médias pas pareil, et on va ailleurs, on dit « Ah, putain, t'es sur Nice, comment tu fais ?» Parce que, effectivement, Nice, l'image qu'on lui donne, c'est les retraités et les fachos. Or, à Nice, il y a plein de gens qui bougent, comme dans toute autre ville. Il y a plein de jeunes. Et donc, je pense qu'on participe aussi à cette image négative. Pour la descendre, justement, c'est nos informations singulières qui permettent de modifier cette image. Puisque le fléau à Nice, pour moi, c'est bien... nos chers élus communiquent eux avec l'argent du contribuable sont dans toutes les boîtes aux lettres, quoi. Quand tu vas sur les tracts des voitures, là il va y avoir encore les élections, c'est Front National et Républicain, mais la gauche elle a pas de sous, quoi. Donc il n'y a pas toute cette communication. Je pense que la singularité de nos médias, c'est que ça perdure et ça existe. Le financement, ça, c'est une autre crèmerie, hein. Nous, en tout cas, on est financés par la DRAC dans le cadre de l'éducation aux médias. Et c'est ce qui permet à Ligne 16 de poursuivre. Mais c'est toujours plutôt dans produire l'information. Et ça peut être le portrait de ta grand-mère. Elle donne beaucoup d'informations. Après, est-ce que ça intéresse ou pas ? Ça, c'est autre chose, quoi.
Tu voulais prendre le micro. Et donc, on va faire une prise de parole ici. Et ensuite, on va faire une proposition de ceux qui, si jamais vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à vous mettre genre ici. Et on vous laissera le micro pour compléter ce débat fort instructif.
Donc moi, je rebondis du coup sur le fait que t'aies parlé de faits divers. Et de, ça me fait penser à une des responsabilités qu'on a en tant que médias indépendants. C'est celle d'être bien organisé, d'être efficace au possible. Parce que nous, on constate sur Montpellier, si tu veux, que nos énergies, elles nous permettent de bien couvrir des sujets, mais quelque part de rester. Alors, ce n'est pas un biais, mais c'est dans le choix des thèmes. Tu vois, on reste toujours sur une actualité qui va être très liée au mouvement social, et c'est, ou à des mouvements de lutte, ou à des thèmes en cours dans un milieu militant, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on doit faire, hein, vraiment. Mais on n'a pas encore trouvé assez de convergence d'énergie sur Montpellier pour justement aller traiter, alors peut-être pas tous les faits divers, mais je veux dire, il y a des politiques qui se cachent derrière énormément, énormément de faits. Et nous, à moitié par incapacité organisationnelle, parfois par paresse intellectuelle aussi, on ne va pas le chercher assez là-dedans, le politique, quasi dans le fait divers, quoi, ou alors dans le... Ouais, c'est ça. En fait, les trois quarts des sujets qui sont abordés par la PQR, je pense qu'ils pourraient l'être par nous, avec une plus-value et un angle intéressant et émancipateur, quoi. Voilà.
Merci, c'était super intéressant comme intervention. Enfin, tout ça est fascinant. Enfin, je suis fier de nous, franchement, c'est super chouette, quoi. Et on a l'Arlésienne qui est là, incroyable. Et une prise de parole, allez, vas-y.
Oui, c'était juste en complémentarité un petit témoignage pour dire qu'effectivement, il y a, en tout cas nous sur Arles, on est en complète complémentarité avec le journal La Provence, qui c'est des copains en fait, et ils peuvent pas traiter. Souvent, ils attendent qu'on sorte un sujet pour après s'y intéresser. Et parfois, nous, on traite pas de sujet parce que si on le traite de façon polémique, ça va pas servir la cause et on se refile les infos, on essaye de céder comme ça un petit peu, sachant que c'est un journal qui appartient à Bernard Tapie, mais que les journalistes qui sont dedans, même s'ils ne sont pas d'extrême gauche, ils ont quand même une sensibilité, une analyse et ils s'intéressent au sujet. Là, dernièrement, pour la petite anecdote, il y a Patrick de Carolis, donc le maire d'Arles, qui nous envoie à la police municipale pour nous dégager d'une vente à la criée. Il est maire d'Arles, ouais. Patrick de Carolis, qui est condamné pour favoritisme de l'affaire Big Malion. Enfin bon, bref. Ouais, c'est... Non, mais à Arles, c'est vraiment très drôle en ce moment. Et donc, au moment où il nous envoie la municipale, il y a le journaliste de La Provence qui passe par hasard. Et donc, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et donc, ils font l'enquête, ils appellent la mairie, ils prennent mon témoignage, etc. Et ça finit en titre... La police municipale veut chasser l'Arlésienne du marché. Et ça nous a fait un coup de pub monstrueux. On a reçu des dons, des abonnements. Et eux, à La Provence, ça leur faisait plaisir. Parce que du coup, ils disaient, bon, ben, on soutient pas l'Arlésienne. Mais il s'est passé quelque chose. Et par le biais de cet événement, ils ont réussi à nous donner un petit coup de main. Et on fait des communiqués de presse dans nos sorties. Ils nous font les petits billets et tout. Donc, ouais... Franchement, le côté complémentarité à chercher, après c'est un cas particulier, Arles, mais j'imagine qu'à Midi Libre, à Montpellier, il y a des journalistes qui sont sensibles aux causes qu'on peut défendre à droite à gauche, etc. Voilà, c'était pour défendre les copains, entre guillemets.
Bah, super cool. On va essayer de faire ça à Nice avec Nice Matin, du coup. Partenariat Mou et Nice Matin, franchement, ça va le faire. Si, ça va le faire, je suis sûr qu'ils sont hyper motivés, ils nous adorent. Est-ce que quelqu'un voudrait reprendre le micro? Ah, Julien. Ah, vous êtes, il y a toute cette ligne en fait. Oh, désolé Julien, en fait il y a toute la ligne ici qui est en train d'attendre. Donc tu vas au bout de la queue, voilà. Au bout de la queue, ouais, c'est un titre, effectivement, c'est un titre.
Je vais essayer d'être bref du coup pour que tout le monde ait le temps de parler. Merci beaucoup pour tout ce qui a été dit. Déjà, c'était super intéressant. Je voulais aussi réagir à ce que plusieurs d'entre vous ont dit sur la frustration qu'il peut y avoir en tant que média pas pareil à pas atteindre tous les publics et à avoir une audience trop petite ou enfin en tout cas qui peut enfin, qui peut ne pas correspondre à un désir de toucher plus de gens. Moi, je voudrais réagir en tant que lectrice au fait que je n'attends pas d'un média alternatif de parler à tout le monde et que, pitié, n'essayez pas de parler à tout le monde, en fait, et qu'il y a déjà, s'il y a déjà des médias mainstream qui atteignent tout le monde, c'est pas la même chose que moi j'attends en tant que lectrice d'un média alternatif. En fait, si moi j'ai besoin qu'il existe ces médias qui sont représentés aujourd'hui, c'est parce que j'ai une confiance dans la ligne éditoriale et que justement cette liberté dont parlait, je sais plus son prénom, c'est ça qui garantit le fait que moi je vais pouvoir me nourrir de cette information et aussi parler à des personnes, à des lecteurs ou des lectrices qui sont acquis à la cause. Pour moi, c'est une fausse. C'est pas parce qu'on est acquis à la cause qu'on n'a pas besoin de se nourrir d'informations. Et en fait, moi, en tant que personne qui suis politiquement alignée, j'ai quand même besoin de pouvoir avoir accès à ce que vous allez faire comme reportage, comme enquête, pour pouvoir continuer à me nourrir intellectuellement et répercuter sur le reste du monde mon engagement et mon militantisme. Donc, pitié, n'essayez pas de parler à tout le monde. voilà, et donc ça, c'était une petite... un petit commentaire, et j'avais aussi une question sur le fait de cette collaboration ou prostitution qu'on peut, c'est le terme qui a été utilisé dans le fait de collaborer avec des médias mainstream. Moi, ma question serait plutôt, vous étiez tous et toutes d'accord pour dire qu'il faut le faire. Du coup, je pense qu'il y a une conscience que c'est un compromis. Non ? Ok, pardon. Il y a débat, ok. En tout cas, j'ai entendu beaucoup cet accord-là sur la nécessité de le faire. Bah, du coup, peut-être vous pourrez réagir. Mais du coup, il y a une conscience que c'est un compromis à faire sur le contrôle qu'on n'a pas, du coup, sur la manière dont l'information va être retranscrite. Du coup, ma question serait, est-ce que dans votre expérience, est-ce qu'il y a des exemples de cas où vous avez dû dire non, ou comment on fait pour poser une limite justement à ce... Enfin, à cette perte de contrôle sur le contenu de ce qu'on veut défendre, quoi.
Après, dans les médias mainstream, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière et qui travaillent et qui voilà, il y a des journalistes très bien qui travaillent à TF1 ou je ne sais où, quoi. Et on peut avoir aussi des surprises sur des médias dits alternatifs. On peut avoir des grosses merdes en compte rendu dans les médias alternatifs. Donc quand je parle de prostitution face à mon image, etc., j'ai décidé d'être porte-parole de quelque chose, et forcément quand on est porte-parole, on n'a pas forcément un pouvoir de communication, mais on n'a pas un pouvoir autoritaire. C'est qu'on a un pouvoir parce qu'on a une capacité, mais on a le devoir, le pouvoir qui amène le devoir à représenter des gens. Et quand je parle de prostitution, je dis que j'ai dit des choses que je ne pense pas. Sur le respect de la République, sur la citoyenneté, sur ce mot de citoyenneté, etc. Mais je ne suis pas seul à parler. En fait, Cédric Héroux, c'est « on », c'est pas « je », quoi.
Moi, je rajouterais sur, par exemple, Ligne 16, lorsqu'il y a eu les attentats à Nice le 14 juillet, ça a été un des moyens pour les médias mainstream de toucher la population et d'avoir, du coup, des personnes qui sont prêtes à témoigner dans leurs journaux. Puisqu'il se passe qu'aujourd'hui, en tout cas, beaucoup en tout cas d'habitants dans les quartiers se méfient des médias et les accueillent difficilement. Et donc, ils ont besoin en fait de gens identifiés pour atteindre des personnes et essayer d'informer à travers ces interviews. Et donc, du coup, moi, en fait, j'ai été étonnée puisqu'effectivement... le premier angle de l'information, c'était le racisme a augmenté à Nice. Et quand je vous dis les journalistes, c'est Le Monde, LCI, même France Culture. Et le deuxième angle après, c'était le radicalisme. Donc pour moi, c'est un journaliste qui vient dans le quartier, prendre le tempo, discuter avec les gens. Et à ce moment-là, il fait sa réflexion. Or là, en fait, il a déjà l'angle d'attaque. Et c'est un problème, ouais.
Et ensuite, si jamais vous faites partie d'un média, n'hésitez pas, ou d'une association, ou d'un truc comme ça, n'hésitez pas à vous décrire. Ça ne vous limite pas, mais n'hésitez pas à signaler ce média, comme ça, les choses seront plus claires.
Bonjour Caroline, 34 ans, j'habite dans la Drôme. Moi, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai dans un petit coin de ma tête, je suis complètement d'accord sur le fait que l'objectivité, en tout cas pour moi, c'est pas vraiment le débat de est-ce qu'on est objectif ou pas quand on est journaliste, c'est plutôt au service de qui on écrit. Et du coup, pour moi, les deux clans, s'il y en a, c'est au service de l'ordre établi ou on questionne l'ordre établi. Et du coup, là, j'ai beaucoup entendu des gros journaux mainstream, enfin des grosses rédactions mainstream, et des petits médias indépendants qui, avec beaucoup de bénévolat et qui ont des diffusions très locales. Et on a peu parlé, pour moi, des intermédiaires qui sont aussi justement les médias qui ont pas mal d'audience, qui sont aussi contre, en tout cas qui questionnent l'ordre établi, comme des Mediapart, des Socialterre, des Reporters, des Bastamag, Média TV et plein d'autres. Du coup, pourquoi est-ce qu'on les aborde pas ici? Est-ce qu'on collabore avec eux et qu'est-ce qu'on pense aussi de toutes ces échelles aussi de rédaction qui permettent de toucher? Parce que typiquement, il y a des médias qui ont des centaines de milliers de vues et qui sont aussi pensés nationalement dès le départ. Donc, ils vont vraiment couvrir tous les sujets et avoir des audiences assez importantes finalement.
Et du coup, pour répondre à cette question, alors on a contacté Mediapart. Les gens du club, les animateurs du club que je connais un peu, qui sont très sympathiques, ils devaient venir, mais j'avais proposé, j'avais dit qu'ils étaient intéressés, mais ils n'ont pas pu venir pour des raisons de planning. Mais Mediapart suit bien ce qu'on fait. Et je pense que pour les autres médias, c'est qu'en fait, c'est ceux qui sont à moyenne mesure comme ça. Je pense que de notre point de vue, il y a eu un côté où on ne s'est pas senti des invités, parce que peut-être qu'on s'est senti trop petit, en fait, peut-être. Il y a peut-être eu un côté intimidant, je ne sais pas, vraiment, je le dis au moment où je le réfléchis, mais peut-être qu'on s'est dit qu'on était trop petit pour les solliciter, en fait, je ne sais pas, vraiment, on ne les a pas sollicités, c'est un fait, mais ce n'est pas du tout une mauvaise volonté, c'est des médias qu'on suit, qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être un effet d'humilité, ou j'en sais rien du tout, humilité, non, ça ne ressemble pas. Mais on sait qu'on les a pas sollicités, je ne sais pas pourquoi. Mais la question reste à creuser et l'an prochain, ils sont les bienvenus sur les deuxièmes assises. Mais voilà, juste pour répondre à cette question, effectivement, il y a des médias de moyenne mesure qui sont extrêmement intéressants, extrêmement politisés, extrêmement performants en termes de contenu. Et ils avaient toute leur place ici, mais ils n'y sont pas. Mais pour le moment, voilà, c'est ça. Ce sera pour la seconde édition, voilà. Avec 3000 personnes, Edoui Plenel ici, là, c'est... à poil sur le comptoir, ça va être génial.
Merci beaucoup d'exister déjà, en vrai, c'est trop cool. Et du coup, je voulais juste prolonger, c'est juste une petite remarque pour prolonger la question de l'objectivité, neutralité, universalité, tout ça. Et du coup, c'est trop bien qu'il y ait des médias alternatifs comme vous, dans certains, ancrés territorialement. Mais je pense qu'en France, on manque aussi de médias vraiment communautaires. Et en fait, c'est un mot qui fait peur. Et quand on parle de soi-disant objectivité, c'est toujours pareil. On veut gommer les différences. Et en fait, parler d'objectivité, ça n'a aucun sens. C'est juste dire... que qui c'est qui va prendre la parole, comme d'hab, c'est des hommes, cis, blancs, hétéros, etc. C'est un peu toujours pareil. Et du coup, je voulais prendre l'exemple d'Alice Coffin dans Le génie lesbien, elle en parle, mais en fait, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres questions. Mais par exemple, le fait d'avoir un média LGBT, en France, ce serait énorme, parce que du coup, dès qu'il y aurait des questions traitées, on en entendrait parler. En fait, il faut que ce soit les personnes concernées qui puissent porter leur propre parole. Et ensuite, je pense que par rapport au lien avec les médias mainstream, ils pourraient venir piocher là-dedans. Comme elle parle un peu des États-Unis, je dis pas que c'est un modèle ou quoi, mais elle dit par exemple aux États-Unis, la communauté asiatique a ses propres médias, la communauté LGBT a ses propres médias. Et du coup, en fait, l'information est vraiment traitée par des personnes concernées. Alors qu'elle, par exemple, quand elle bossait aux 20 minutes, elle explique que dès qu'elle voulait, donc elle est lesbienne, et dès qu'elle voulait parler d'un sujet un peu LGBT, on lui disait ah non, mais tu peux pas parce que tu vas pas être objective, quoi. Alors que c'est complètement absurde de penser dans ce sens-là et qu'il faudrait penser l'inverse et dire toi, tu sais, tu es personnellement concerné par ces questions-là, donc tu es la plus à même d'en parler. Voilà, tout ça pour dire que si des gens veulent créer des médias communautaires, il ne faut pas avoir peur du mot communautaire. Mais c'est trop cool ce que vous faites et c'est trop cool tout le monde ici. Voilà,
merci beaucoup.
Non, c'est juste pour dire carrément, je suis mille fois d'accord. Et plus, c'est beaucoup plus facile d'atteindre une audience et une qualité de l'information quand on fait un truc super précis. Voilà. Et du coup, s'il y en a qui veulent se lancer, qui ont un peu peur, ou je sais pas, ils ont un peu peur de lancer un média, ils se disent que est-ce qu'ils vont avoir la légitimité, ou je sais pas. Une des manières de le faire, je pense, en effet, c'est de se focus sur de se focaliser sur un sujet précis, parce que forcément, l'expertise, on va l'avoir rapidement du sujet. Du coup, on va rapidement devenir une référence, et on va avoir un lectorat très intéressé. Carrément, voilà.
Et merci. Putain, je suis en train de flamber devant vous, là, c'est... Je n'en peux plus. Julien du Trou de Combraille.
Bonjour. Donc nous, on est un tout petit média de la Creuse qui sort deux fois par an, parce que c'est ma mère qui les distribue, ça je l'ai déjà dit, mais je leur dis, bah, ça fait bien. Et mais du coup, on n'est pas tellement concerné, bah, moi, par tout ce qui est mise en commun de réseaux de distribution, subventions, tout ça. Mais si vous voulez le Trou des Combrailles, on est surtout disponible en kiosque. Donc passez par la Creuse, je suis embauché par l'office de tourisme. Passez par la Creuse et puis vous pourrez boire un petit coup, voilà, au Trou des Combrailles.
Et voilà, ça prend le micro, enfin des placements de produits. Il est hors de question que ce genre de comportement inacceptable se reproduise. Ah, voici le président qui est avec nous. Monsieur le président, il est là. Ah, je l'aime, c'est mon président. Il me préside. Donc voilà, je te donne le micro.
Non, je voulais. Il y a Arnadjad qui l'a déjà avant qu'il l'ont fait, mais je pense que c'est très important de revenir sur la question de l'objectivité et de la neutralité. C'est peut-être pour moi, c'est un peu un des points fondamentaux. Après, je suis pas historien de la presse, je vais peut-être dire des conneries, n'hésitez pas si vous y connaissez mieux que moi. Mais je pense que de toute façon, à la base, il n'y a que la presse, parce qu'il n'y avait pas encore la radio et la télé et Internet. Et je pense que dans l'histoire de la presse, on n'a jamais eu vraiment cette question qui s'est posée avant. De ce que je connais de l'histoire de la presse, tous les médias avaient un point de vue et c'était assumé, c'était soit des réacs, soit des avant-gardistes. Et du coup, je réfléchissais là pendant que vous parliez tous et je me disais que peut-être c'est le moment où cette idée de neutralité, d'objectivité a été mise en place. Est-ce que c'est pas aussi lié à la télé d'État, enfin le service public en fait, le fait qu'il y ait des fonctionnaires qui... Je suis complotiste, oui. Je pense que ça va très bien aussi avec l'idéologie au-delà de la presse, du fait que je pense qu'on est dans un système capitaliste, enfin je pense, c'est pas je pense, mais qui tente depuis longtemps de nous faire avaler qu'il n'y a qu'un système économique et social qui fonctionne et que c'est la vérité. Et en fait, moi je ferai le parallèle avec cette vision-là du journalisme. Où en fait, nous, on est des idéalistes, des utopistes, n'importe quoi, ferme ta gueule et travaille. Et en fait, la presse, c'est un peu la même chose. Cette question d'objectivité, c'est à un moment donné de vouloir faire croire que l'idéologie dominante, c'est la vérité, c'est la réalité, que le reste, c'est du délire, etc. Et je pense que ça viendrait de là. Et du coup, c'est forcément, je pense que la neutralité, en fait, on est neutre qu'en fonction de ce que notre patron veut qu'on dise ou pas. C'est ça la neutralité en fait. Et donc la question du salariat qui revient aussi dans plein d'autres trucs, c'est-à-dire que vous êtes journaliste mais il y en a qui le relevaient. Quand vous pointez, c'est genre non mais vous n'êtes pas journaliste, c'est des conneries votre truc. Et ça on le retrouve dans tous les milieux en fait. La discrimination des gens qui ne sont pas payés pour faire des trucs alors qu'ils le font bien. Et il y a des gens ici qui sont juristes, qui sont journalistes, qui sont plein de trucs dans la lutte et qui se font rironner par des mecs qui ont fait des études et qui sont payés pour faire la même chose et qui souvent le font en plus mal qu'eux, quoi. Voilà, donc c'était juste pour alimenter cette réflexion.
C'est fort intéressant, merci Loïc. Je suis tout à fait subjectif dans le fait que je dis que je trouve ça fascinant et passionnant et très pertinent. Et maintenant, on a une prise de parole d'Olivier Dacrimède.
Oui, merci beaucoup Philémon. En fait, c'est juste pour vous dire que d'abord, j'aurais une suggestion, c'est que au lieu de parler de la presse mainstream, on parle de la presse dominante, on a encore une langue. On a encore des mots avec des concepts forts derrière. Sans rappeler, c'est important pour les situer. Autre chose, je vous ai beaucoup écouté et je pense que la solution, en fait, elle est trouvée dans l'exemple magnifique de la mule du pape. La solution, c'est l'opportunisme. Mais oui, en fait, vous êtes dans un combat, vous êtes dans votre combat. Vous êtes militant, vous n'avez pas de complexe à être militant parce que les gens d'en face, ils le sont autant, mais ils le sont de façon occulte. Nous, on passe notre temps, on passe notre vie à prouver par A plus B qu'ils le sont. Et c'est très facile à prouver. Il suffit de se colter, je ne sais pas, vous vous fadez tous les invités de chaque journal et vous voyez très bien qu'est-ce qui vient. Donc, tout le monde est militant, et eux les premiers. Donc ne vous laissez pas enfermer par cette étiquette. Et donc, et soyez opportuniste, c'est-à-dire que quand vous pouvez, faites-vous des alliés avec les correspondants locaux, avec les journalistes locaux, parce que dites-vous bien que ce sont des gens comme vous et nous, enfin, ils sont bridés par leurs directeurs de rédaction, qui sont eux-mêmes bridés par leurs actionnaires au-dessus. Et ils sont dans l'autocensure parce qu'ils ont besoin de bouffer tous les jours aussi. Et quand vous arrivez à faire ce qu'a décrit le collègue de la Mule du Pape, eh bien, c'est magnifique parce que vous en arrivez au point où c'est vous qui allez retourner les choses et dicter l'agenda en disant voilà les sujets, voilà les vrais sujets dont il faut parler. Et la même chose quand vous arrivez, comme tu l'as fait, à monter à l'échelon national. Donc continuez comme ça. Donc sachez être opportuniste et sachez aussi où est-ce qu'il faut dire non. Quand tu as su dire non pour Hanouna, bravo, merci.
Mais bravo Olivier, putain, c'était super chouette. Allez Olivier, on est un grand hola pour Olivier, c'était vachement cool ce qu'il a dit, j'ai adoré. Ouais. Une intervention assez courte parce que du coup il y a des personnes qui attendent, mais allez-y. Allez.
Bah moi c'était juste pour rebondir, tout à l'heure on a parlé de médias plus communautaires. Et c'est juste pour faire un petit moment pub parce qu'il y en a plein qui existent. Du coup, soutenez aussi, je pense au Bondi Blog, je pense à la revue Koi qui vient de sortir sur les cultures asiatiques. Et puis surtout à Ximedia qui est un média tenu que par des personnes trans et spécialisé sur ces questions et qui suivent l'actualité. Du coup, soutenez ces médias-là qui existent aussi et qui n'ont pas forcément de visibilité et qui viennent juste de sortir. Du coup, voilà.
Merci beaucoup. Et du coup, Tania. Avant la projection du film, on n'est pas trop mal. Il nous reste 5 minutes, me dit Edwin, actuellement. Il nous reste 5 minutes, donc si jamais vous avez une prise de parole, n'hésitez pas à venir ici dans la queue des prises de parole. Et maintenant, Tania.
Alors moi, c'était juste pour moi, je travaille avec les jeunes, et en fait, les jeunes, ils vont pas à l'information, ils attendent qu'on leur donne, puisqu'ils sont sur les réseaux. Donc du coup, nous, c'est un bon moyen aussi de les utiliser, ces réseaux, pour faire connaître aux jeunes que ça existe. Donc elle a cité le Bondi Blog, c'en est un bon exemple, quoi, hein, vu que c'est banlieue parisienne. Et du coup, il suffit simplement de s'abonner sur leur page pour avoir les infos de Bondi Blog. Donc du coup, c'est avec la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, quand vous leur posez la question « c'est quoi un média ?», ils vous répondent « Snapchat, Instagram ». Et c'est là où, justement, on a un travail à faire aussi pour leur dire que Internet, c'est magnifique et c'est merveilleux à condition d'aller nous chercher l'information et pas d'attendre qu'on nous la donne. Or, du coup, c'est parce que c'est bien beau d'être toujours avec les mêmes. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a le phénomène de communauté aussi qui s'installe, c'est-à-dire vos amis, apparemment, ils pensent comme vous. Et donc, on s'enferme dans une bulle aussi. Donc ça, c'est dangereux aussi au niveau de la démocratie, je trouve. Donc, ces événements, par exemple, pour moi, sont une clé pour se rencontrer. Et il faudrait évidemment que ce soit plus sur la place Masséna ou en tout cas, de manière à ce qu'on puisse ouvrir à des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, mais qui peuvent assister à ces débats et donc s'ouvrir aussi sur cette presse-là et cette singularité qui, à mon sens, est vraiment l'enjeu pour la démocratie.
Merci, Tania. Je viens de me rendre compte que j'avais des tracts du Front National dans la poche, donc si jamais vous en voulez, n'hésitez pas, j'en ai deux. Voilà, vous n'êtes pas sûr de votre choix pour les prochaines élections. Voilà, ils sont là, ils sont à disposition ici, au point kiosque. Et maintenant, je te donne la parole, ce sera la dernière parole de ce magnifique échange. Allez, hop. Ça fait un peu la trouille, j'avoue, mais bon, allez, vas-y. On se lance.
Non, c'était juste pour dire merci. Moi, je suis juste une lectrice et de la presse indépendante, je la découvre depuis pas longtemps, depuis quelques mois. Et c'est les seuls médias donc, qui nous ont donné la parole. Alors, je remercie un peu tout le monde parce que pour faire vite, nous, on est là parce qu'on vivait tranquille et on s'est réveillé un matin en nous disant qu'on n'aurait plus le droit de faire l'instruction en famille et de vivre librement comme on le voulait. Donc, moi, ça m'a un peu réveillée. J'ai écrit des trucs, j'ai envoyé à tout le monde. Et les seuls relais, et en fait, j'ai réussi à avoir un réseau un peu partout par la presse libre. Alors, elle est différente, ça a été Basta, Reporter, Mediapart, enfin, des petits journaux, voilà. Non, d'autres petits journaux. Non, et je trouve que franchement, ça a été, enfin, pour moi, ça a été une super découverte parce que j'avais l'impression qu'on était des sans voix, quoi. Et en fait, à force d'être dans ces petits journaux, alors je dis pas qu'il faut être dans les mainstream, mais du coup, ça a porté quand même une voix un peu plus loin que voilà, et ça m'a fait découvrir des gens super ici, je trouve que voilà, c'est génial. Alors j'ai rencontré des gens super qui m'ont ouvert sur la politique, sur la presse, sur plein de domaines que je connaissais pas. Donc je voulais juste dire un grand merci à tout le monde pour ces assises, pour ce week-end et puis pour tout ce que vous faites. Voilà,
merci Adeline,
et un grand merci à Adeline. Du coup, c'est nous qui te remercions d'être venu de loin, en plus un petit peu quand même. Ah, il y a Primitivi qui va prendre la parole 10 secondes.
Bon, c'est pas très intéressant ce que j'ai à raconter. J'ai dit hier qu'on était parti sans une carte postale et sans un flyer. Et ce matin, j'ai retrouvé des flyers dans mon sac. Donc j'étais super content. Et j'étais tous paumés. Donc je voulais voir si quelqu'un les avait pas trouvés par hasard. Ils sont sous une assiette. Je les vois très bien sous l'assiette pour pas qu'ils s'envolent. Mais je sais pas où. Donc on va voir. Merci.
Bah, écoute, merci Primitivi pour cette magnifique information. Et voilà, merci à vous. Et voilà, on va passer au film qui va être en bas. Ça va être Batcha, ça va être un petit peu bordélique, mais ça va être magnifique. Et donc justement Thomas qui va nous projeter son leur film, La Bataille de la Plaine, sur la bataille du coup du quartier de la Plaine. Voilà, enfin c'est un film citoyen. On se revoit ici dans pas très longtemps après le film. Mais je quand même remercier l'équipe cuisine qui est plus là, mais vraiment un grand merci à l'équipe cuisine qui nous a régalé à midi. Un grand merci à l'équipe cuisine.